Bonjour, vous êtes bien sur Radio B, la radio des bonnes ondes 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Nous allons consacrer notre émission, une fois de plus, mais ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est un plaisir, à l'œuvre et à la vie d'un compositeur français, Emmanuel Chabrier, né lui aussi dans ce 19e siècle béni pour la musique et les arts en général, et dont Bruno nous parlera plus avant. Emmanuel Chabrier, qui, dans notre liste déjà conséquente, fait suite à des émissions que nous avons consacrées à des Français, des compositeurs français, Debussy, Lalo, Massenet, Berlioz, Ravel, Offenbach, Poulenc, Franck, Reynald Dohan, Fauré, Messager. C'est le tour donc de Chabrier qui, avec un certain sens sans doute de l'autodérision, disait « Je rythme ma musique avec mes sabots d'Auvergnat ». Auvergnat il était, et nous allons suivre son œuvre et sa vie. C'est un homme qui marquera son temps et qui sera admiré, respecté en tout cas par bon nombre de ses contemporains, dont j'ai cité une partie, Debussy, Ravel, qui l'inspirera souvent, Satie, Richard Strauss, l'Allemand, Stravinsky et Darius Milhaud. Voilà un compositeur bien dans son siècle qui fera une musique merveilleuse, même si ses numéros d'opus ne sont pas considérables, son œuvre n'est pas considérable, parce que malheureusement il meurt à 53 ans. Écoutons pour commencer là une pièce pour piano composée en 1891, La bourrée fantasque.
Thank you. Emmanuel Chabrier aura traversé la deuxième moitié du XIXe siècle, puisqu'il est né en 1841 et décédé en 1894. Il est donc le contemporain de nombre de musiciens que nous avons admirés. Reynaldo Hahn, Bizet, Massenet, Duparc, Debussy pour la fin du XIXe, Messager aussi. Et Paul a cité que nombre de ces très grands musiciens français ont reconnu son immense talent et ce qu'il a apporté à la musique, voire à l'influence qu'il a eue sur eux. On peut peut-être présenter Emmanuel Chabrier en faisant état d'un contraste. Nous avons un personnage truculent, joyeux, des tableaux le montrent particulièrement en verve et souriant, le verre à la main. Peut-être que cette image d'ailleurs lui a nui en ne laissant pas apparaître la profondeur de son talent et qu'il est resté pour beaucoup comme un amuseur. Mais c'est donc oublier la reconnaissance qu'ont les grands musiciens. Par ailleurs, il a eu cette dualité d'avoir une musique authentiquement française, de création naturelle. Toutes ses œuvres le montrent, en particulier ses œuvres pour piano, qui sont d'une grande douceur, qui sont d'une belle vivacité. Et en même temps, cette admiration pour Wagner, où il a, à ce moment-là aussi, été tellement impressionné que cela a influencé sa musique et peut-être l'a surchargé. C'est en tout cas ce que dit Reynaldo Hahn, qui dit que Chabrier considérait qu'il avait de la difficulté à écrire et qu'il revenait sur ses partitions, qu'il retirait des notes, et Reynaldo Hahn disait « il en efface une pour en mettre deux ». Donc, que penser de tout cela? Il faut d'abord écouter sa musique, et nous reviendrons sur cet épisode espagnol en démarrant par son œuvre la plus connue, à savoir « Espagna ». Thank you.
Emmanuel Chabrier naît le 18 janvier 1841 dans le Puy-de-Dôme à Amber, pays de ce fameux fromage éponyme, la fourme d'Amber. Son père est avocat et le petit Chabrier va prendre des leçons de musique à partir de 6 ans. Il apprend le piano avec un réfugié espagnol, M. Saporta. À 8 ou 9 ans, il fait quelques petites compositions pour le piano. La famille déménage à Clermont-Ferrand en 1852 et son père le consacre à des études juridiques. Il apprend aussi le violon à cette époque. Son père il a des dispositions évidentes pour la musique, mais son père est totalement opposé, comme d'autres pères de l'époque, à ce qu'il fasse une carrière musicale. Et la famille arrive à Paris en 1856. Il ne passera jamais Chabrier par l'étape du conservatoire. Il restera avec des professeurs privés. Il passe son bac, il passe sa licence de droit et il commence une carrière de fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Il se marie, il a 3 enfants, bref, une vie qui semble s'échapper des sphères musicales pour rester, on va dire, une vie qui ne lui plaît pas, puisque la musique, évidemment, il l'a dans le sang. Et après cette arrivée à Paris et quelques années de travail comme fonctionnaire, qu'il a la révélation musicale de sa vie. En 1879, il écoute l'opéra de Wagner, Tristan et Isolde. Il est évidemment bouleversé et il décide de renverser la table symboliquement en décidant de se consacrer sa vie restant à une carrière de compositeur. Nous allons maintenant écouter un extrait qui s'appelle « La romance de l'étoile » d'un opéra bouffe qui s'appelle « L'étoile » composé et joué en 1877 en 3 actes. Avec le roi Ouf, on faisait déjà du verlan à l'époque, un astrologue, ça commence mal, le roi offre à ses sujets, le jour de sa fête, l'exécution d'un criminel, il n'y a plus de criminels puisque les prisons sont vides, bref, tout cela s'enchaîne et finit bien par un beau mariage et dans la joie. Donc la romance de l'étoile.
Thank you.
Je reviens sur ce personnage en contraste. J'ai choisi cette trame pour présenter Chabrier. En effet, Alfred Cortot, le très grand pianiste et analyste de la musique de piano française notamment, mais aussi Chopin, Liszt, mais il s'est beaucoup intéressé à la littérature pianistique française, disait de lui, c'est au piano que avec aucune forme préconçue, aucun modèle grandiose, il s'épanouit. Le musicien, il est lui-même, ses dons d'improvisateur et de virtuose impressionniste s'y conjuguent pour l'expression la plus naturelle de son charmant génie. On voit dans le vocabulaire choisi par Alfred Cortot ce qu'on pourrait peut-être qualifier comme une limite dans l'expression musicale de Chabrier, son charmant génie, mais en même temps qu'il reconnaît la puissance et le naturel de son sens musical. Alfred Cortot ne partage pas le même enthousiasme pour les œuvres que Chabrier a composées en étant influencé par Richard Wagner. C'est notamment de cela dont je vais parler maintenant. La découverte de Richard Wagner avec Tristan Heyseld et Lohengrin va bouleverser Chabrier, qui va d'ailleurs être recruté par Charles Lamoureux, le chef d'orchestre parisien, comme chef de chœur et secrétaire particulier. Il devint un passionné de Wagner et il est certain que cela a influencé une partie de sa musique, parfaitement en contraste d'ailleurs avec sa musique pour piano, toute délicate et sensible. Nous allons écouter l'ouverture de Gwendoline, un grand opéra qu'il n'a pas pu faire produire d'ailleurs facilement à Paris. Et vous allez ressentir la grande différence entre cette musique, et notamment la première œuvre que nous avons écoutée, la bourrée fantasque pour piano, et le grandiose de Gwendoline, la trame musicale qui effectivement est très influencée par Wagner, mais est une magnifique musique pour nos oreilles, à Paul et à moi. Thank you. Fred Cortot, ce très grand pianiste et professeur, est beaucoup plus savant que moi, et vous aurez compris qu'il ne loue pas la musique de Chabrier lorsqu'il est influencé par Wagner. Je n'ai pas, quant à moi, cet avis, et j'en veux pour preuve le final de Gwendoline. Donc, situons le scénario. En fait, un Danois envahit les Saxons, un village saxon, et au moment de cet envahissement, il tombe amoureux, le roi Harald, donc, de la princesse saxonne Gwendoline. Ils se marient, mais les Saxons veulent que les Danois disparaissent de leur contrée, et Gwendoline choisit de mourir aux côtés de Harald, et c'est donc le thème de ce final qui, à mes yeux, est parfaitement bouleversant. On entend les deux protagonistes, le roi Harald qui va mourir, ils sont d'ailleurs comme Jeanne d'Arc brûlé vif, et Gwendoline qui le suit dans sa mort. Et c'est, je trouve, une pièce absolument magnifique.
De l'intérieur pour se consacrer pleinement à une vie de compositeur, et Emmanuel Chabrier va bien entendu prendre des cours de composition, car jusqu'à présent il a étudié le piano, il est très bon pianiste, il a appris aussi à jouer du violon, mais la composition, bien sûr, il faut prendre des cours, et il va apprendre la composition avec Théophile Semet, qui est un compositeur connu à l'époque, qui a une œuvre personnelle importante, qui est un très bon technicien et qui passera au travers du filtre de l'histoire, car on peut dire qu'il est quasiment inconnu. Et puis il prendra aussi des contre-compositions avec un autre compositeur de l'époque, Aristide Ignare, qui n'est pas Ignare car son nom prend un H. Et il va avoir une vie sociale, une vie artistique très riche, car il est au milieu de ses confrères compositeurs, qu'il estime, je l'ai dit, dont bon nombre l'estiment, et puis il est ami avec des écrivains, il est ami avec Daudet, Alphonse Daudet, et puis il est surtout ami avec Verlaine, ce sera une très grande amitié. Il a une vie très riche, mais il lui reste 10 ans à vivre, car il va mourir à 53 ans. Il compose la plupart de ses œuvres dans une maison chez sa belle-mère, près de Tours. Et c'est une œuvre importante, qui n'est pas évidemment énorme, mais il va balayer tous les styles musicaux. Beaucoup de pièces pour piano, puisqu'il était pianiste à la base, beaucoup de pièces pour piano avec des valses, avec impromptus, de la musique orchestrale avec un larghetto pour cor et orchestre, une suite pastorale, des marches et une musique vocale avec beaucoup de mélodies pour piano et chant, les plus jolies chansons du pays de France, des sérénades, la sérénade de Ruy Blas, et puis donc beaucoup de chansons et de la musique lyrique, bien entendu, qui est importante, car il va vouloir composer un opéra, il composera L'Étoile, il en composera un autre qui est sa grande œuvre pour opéra, qui est Gwendoline, dont nous parlera Bruno, Le Roi malgré lui, Briseis, il ne fera qu'un acte, mais des compositions pour musique lyrique qui sont d'importance et qui sont pour L'Étoile et pour Gwendoline, les grandes œuvres opératiques de sa vie. Nous allons donc écouter, pas de l'opéra, mais ce sera Bruno qui entre-temps nous en aura fait écouter, une suite pastorale qui s'appelle Idylle, qui est très très belle, très très harmonieuse. Thank you.
Emmanuel Chabrier a été séduit par l'Espagne. Il en a eu les prémices parce que ses premiers professeurs à Ambert étaient des réfugiés espagnols. Et donc, si l'on regarde Ambert et que l'on regarde l'Espagne et Paris, Ambert est à mi-distance. Donc, pour lui, il a eu très envie d'aller visiter l'Espagne. Ce qu'il fit avec sa femme et ses deux enfants pendant plusieurs semaines, il visita donc l'Espagne à 41 ans. Il en est revenu avec une des pièces, notamment Espagna que nous avons écouté au début de cette émission, mais aussi la Habanera que nous allons écouter maintenant. Il a été très impressionné par la musique andalouse, notamment par le flamenco, et il nous a offert ainsi des pièces qui ne sont pas des pastiches de l'Espagne, mais il en a parfaitement ressenti le dynamisme et la couleur orchestrale. Écoutons maintenant Habanera. Thank you.
Emmanuel Chabrier, qui est ami de compositeurs, de confrères, qui est ami d'écrivains ou poètes, va aussi se lier avec en tout cas ceux qui sont les plus connus, de peintres qui sont aujourd'hui arrivés à une cote tout à fait énorme. Il est le modèle de plusieurs artistes peintres. On l'aperçoit dans un petit coin du tableau qui s'appelle l'Orchestre de l'Opéra d'Edgar Degas. Il est dans la loge d'avant-scène. Autour du piano par Henri Fantin-Latour et dans la scène du bal masqué à l'opéra d'Édouard Manet. Il se lie donc effectivement avec ces grands artistes, et puis il y a également, bien entendu, Renoir. Et Chabrier va en fait acheter beaucoup de toiles de ces artistes peintres, qui, je le dis, à l'époque n'ont évidemment pas la cote qu'ils ont aujourd'hui. Il va posséder bon nombre de tableaux de Manet, de Claude Monet, d'Auguste Renoir et même d'Alfred Sisley. Donc un véritable collectionneur d'art, à telle enseigne que sa collection sera vendue en 1896 à l'hôtel des ventes de Drouot. Et donc une collection tout à fait considérable. Il va décéder le 13 septembre 1894, atteint de syphilis. Il devient dépressif, angoissé et parfois un peu emporté. Et cette œuvre reste tout à fait magnifique dans l'histoire de la musique française de ce 19e siècle.
Emmanuel Chabrier, comme vient de nous l'exposer Paul, était donc un homme très cultivé qui a su comprendre et voir quels étaient les grands peintres de son époque. Il fut aussi l'ami de Verlaine qui disait de lui, et ce sera la conclusion de cette émission, « vif comme les pinsons et mélodieux comme les rossignols ». Écoutons pour conclure une œuvre pour piano, feuillet d'album, en référence à son goût pour la peinture. Nous avons écouté au cours de cette émission, et vous allez découvrir l'étendue des grands interprètes qui jouent Chabrier, tout d'abord La bourrée fantasque par Alexandre Tarot, puis Espagna dirigée par Riccardo Muti avec le Philadelphia Orchestra, puis L'étoile de Chabrier chantée par Colette Alliot-Luga à l'Opéra de Lyon, dirigé par John Elliott Gardiner en 1986. Ensuite, l'ouverture de Gwendoline, elle aussi jouée par John Elliott Gardiner avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, puis le final magnifique de Gwendoline avec Antonio Torello comme chef d'orchestre. Ensuite, Idylle de la suite pastorale, puis Habanera joué par le Yokohama Sinfonietta avec un chef japonais lors des folles journées de Nantes, et enfin Alain Planès dans un feuillet d'album. Passez un bon mois et au mois prochain pour une nouvelle émission.